Je suis halluciné par le nombre de messages que je reçois de pratiquants qui galèrent en sparring, qui ne progressent pas et qui ne comprennent pas pourquoi et qui ne savent pas quoi faire. La mauvaise nouvelle, c'est que le problème vient souvent du coach et de ses cours et que de par son statut, il va refuser d'être à l'écoute de ses élèves et de remettre en question ses méthodes. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne et je suis passé par plein de phases différentes, y compris le sparring de bourrin bête et méchant. Mais j'ai essayé de garder l'esprit ouvert et bien sûr de toujours donner ce qu'il y a de mieux à mes élèves en mettant de côté mes convictions personnelles. Si tu es coach, laisse-moi te confier quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre. Le pratiquant qui devient coach, c'est une exception, c'est une infime partie des pratiquants. Tu es donc différent de tous les autres. Et ça veut dire que ta manière de penser, ta manière de t'entraîner, ta manière de réfléchir, de concevoir l'entraînement et la pratique est radicalement différente de celle de tes élèves et ça va te demander de t'adapter et surtout de faire des concessions. Surtout si, comme dans la majorité des clubs, tu t'adresses à des pratiquants loisirs. Il faudra vraiment que tu te mettes dans leur peau, pas dans la tienne, pas forcément ton parcours à toi. Il va falloir se détacher de ton parcours à toi, bien sûr, garder les leçons que tu as retenues tout au travers de ta pratique, mais voir ça d'un œil différent de quelqu'un qui est là juste pour du loisir, qui n'a pas une implication comme toi, tu as pu l'avoir puisque tu es devenu coach. Maintenant que ça c'est dit, on peut avancer. Je vais te faire part de tout ce que j'ai pu observer tout au long de ma carrière et tu vas vite te rendre compte que la plupart du temps, le problème ne vient pas des élèves, mais plutôt de la manière dont les coachs structurent leurs cours. On va voir à quoi ressemble le cours typique qu'on peut retrouver dans la majorité des clubs de boxe pieds-poings. Je ne vais pas te parler de l'échauffement parce qu'il y aurait certainement beaucoup de choses à dire, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. On va se focaliser plutôt sur la source du problème, c'est plutôt la suite. Donc typiquement, qu'est-ce que fait le coach? Après l'échauffement, bien sûr, il va montrer une ou plusieurs techniques à pratiquer par deux à ses élèves, avec plus ou moins de progressivité, parfois avec un fil conducteur, parfois sans fil conducteur. Et puis, une fois qu'ils ont travaillé un certain temps les techniques, on dit à tout le monde, c'est l'heure de se taper sur la gueule et c'est parti pour les sparring. C'est ultra simplifié, mais je pense que ça résume pas mal 90% des cours collectifs. Pour moi, c'est un peu comme si tu passais ton permis voiture, tu as ton code et ça s'arrête là. On te dit, c'est bon, tu sais conduire, tu sais quoi faire, viens, on prend la voiture, je t'emmène sur la place de l'Étoile, t'inquiète pas, t'as ton code, tu sais conduire. Déjà, il y a peu de chances que tu arrives à aller jusqu'à la place de l'Étoile, sauf si tu y es déjà, et c'est sûr que tu n'arriveras pas à la passer. Tu vas soit te figer, soit avoir un accident, mais ce sera la catastrophe. Et le résultat, c'est que tu n'auras peut-être plus jamais envie d'essayer de conduire parce que tu auras vécu ça comme un mini-traumatisme et tu te seras senti incapable. Et c'est exactement ce que vont ressentir la majorité des élèves quand tu vas leur faire faire du sparring sans bien les avoir préparés. Les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'élève a travaillé sur l'appréhension de prendre des coups? Est-ce qu'il a déjà fait des techniques avec des attaques aléatoires? Est-ce qu'il a acquis des automatismes de base en situation? Est-ce qu'il sait cadrer, se déplacer correctement? La réalité est qu'entre le travail technique et le sparring, il y a tout un tas d'exercices qu'on peut et qu'on devrait faire pour mieux vivre ses premiers sparring, mieux s'en sortir et donc avoir beaucoup, beaucoup moins de frustration. Alors, je ne vais pas te délivrer ici tous les secrets de mes 20 ans d'expérience, ça je le garde pour les coachs qui suivront la formation sur la pédagogie que je vais leur donner. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le lien est dans la description pour en savoir plus. Par contre, je vais te donner des conseils qui vont quand même t'être super utiles. Premier conseil, pense à inclure du travail aléatoire dans ton travail technique. Je te donne un exemple tout simple. D'abord, tu commences à travailler une défense sur un jab, donc une défense, et derrière, tu fais un enchaînement en réponse à l'attaque. Ensuite, tu vas travailler une défense sur un crochet du bras avant. Donc là, tu vas me dire, bah, il n'y a pas réellement de fil conducteur entre les deux techniques, si ce n'est que c'est des défenses sur une attaque de bras avant, le jab ou le crochet du bras avant, mais ce n'est même pas très important. Une fois que tu as fait ça, typiquement, ce que tu peux faire pour améliorer ta chance de réussir à le placer ensuite en situation, en sparring, c'est que ton partenaire, tu vas lui demander de t'attaquer aléatoirement, soit en jab, soit en crochet du bras avant, et là tu vas travailler l'un ou l'autre. Donc tu n'as que deux possibilités, donc ça veut dire que tu réduis le champ des possibles, mais tu as quand même un côté aléatoire. Ensuite, en gardant cet exercice-là, tu peux faire plusieurs progressions. Tu peux faire d'abord une première progression où ça se travaille sur place, on n'est pas en déplacement, on est à l'arrêt, ça rend les choses plus faciles. Ensuite, tu le mets en mouvement. Ensuite, tu peux inclure du travail de feinte. Ensuite, tu peux augmenter l'intensité, la vitesse ou la puissance pour ajouter un petit peu un côté stress. Et déjà, là, tu vas te rapprocher un peu plus d'une situation de sparring et le transfert sera bien meilleur quand tu vas faire du sparring. Deuxième conseil, fais du sparring à thème. C'est hyper important, c'est souvent le chaînon manquant entre le travail technique et le sparring libre. Je te donne un exemple. Tu vas dire, on commence un premier round où on a le droit d'attaquer uniquement en jab, aucune autre attaque. Tu peux, si tu veux préciser et faire plus de rounds sur ce thème-là, dire un premier round, on a le droit de faire que des jabs à la tête, un deuxième round, on a le droit de faire les jabs à la tête et au corps, ou alors même faire trois rounds, c'est-à-dire que la tête sur le premier, que au corps sur le deuxième et corps ou tête sur le troisième. Ensuite, tu as le droit de travailler tes défenses, tes esquives comme tu veux, mais c'est déjà un thème spécifique qui, une nouvelle fois, réduit le champ des possibles et donc te permet de travailler un point précis que tu vas améliorer en situation et que tu auras plus de chances de réussir ensuite techniquement à faire des choses sympas en sparring. Après, tu as d'autres choses. Tu peux très bien faire, un jab et l'autre, le crochet du bras avant. Donc ça peut être aussi un truc intéressant parce qu'on a une attaque linéaire contre une attaque circulaire. Et donc, il va falloir travailler un peu sur la stratégie et anticiper le placement, les possibilités que l'autre va avoir. Voilà. Et des exercices comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines que j'ai utilisés dans mes cours. Et c'est vraiment ultra, ultra efficace pour améliorer, par exemple, peut-être quelque chose qui pêche dans ton groupe d'élèves ou chez certains élèves, ou simplement les rendre super bons ou super efficaces sur un truc précis. Donc, tu veux que maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui leur fasse un jab, ils soient hyper rapides à répondre et qu'ils aient toujours une solution qui soit hyper à l'aise quand on vient leur faire un jab parce que c'est le coup de poing le plus fréquent, le plus utilisé en boxe. Donc, ça peut être une bonne solution. Mais après, tu peux faire ça pour toutes les attaques et plein de techniques. C'est juste, on va dire, une sorte de schéma que tu peux reproduire et multiplier et faire plein de déclinaisons pour créer des dizaines et des dizaines d'exercices. Il me reste un dernier conseil à te donner et celui-ci, il est pourtant assez évident et peu utilisé. En réalité, il existe trois types de sparring. Tu as le premier, le sparring technique qui va être du sparring plutôt en mode jeu, ludique. Le meilleur exemple, c'est d'aller regarder les Thaïlandais à l'entraînement. Ils savent faire ça à la perfection. Là, c'est un sparring où tu vas faire que des choses tout en contrôle. C'est à la touche. Tu dois contrôler chaque technique que tu envoies, pouvoir l'arrêter si nécessaire. Mais idéalement, tu vois les Thaïlandais qui le font même sans protection. Ça peut être sans gants, sans protège-tibia, sans rien, parce que tout est contrôlé, tout est maîtrisé. C'est hyper important parce que dans ce type de sparring, souvent, tu vas prendre un côté un peu jeu. Tu vas pouvoir t'amuser, quand tu développes le bon contrôle, tu peux commencer à mettre un peu de vitesse, mais tu restes vraiment hyper léger à la touche. C'est un peu comme jouer à chat, mais version boxe. Et vraiment, c'est hyper plaisant. Et pour le développement technique, il n'y a rien de mieux. C'est pour ça que les Thaïlandais le font tout le temps, parce qu'eux, ils combattent fréquemment. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de s'abîmer à l'entraînement. Donc, pour travailler leurs réflexes, leurs automatismes et essayer de progresser en continu sur le plan technique, ils privilégient ce type de sparring qui est vraiment pour moi ce par quoi il faut commencer. Et même, c'est la forme de sparring à privilégier pour tout le monde. Deuxième forme de sparring, le sparring appuyé. Donc là, on est plutôt à 70-80% maximum, on va dire, de sa puissance. Forcément, là, il y a quand même un peu plus de tension, un peu plus d'enjeux. Donc, on va travailler aussi sur l'aspect quand même stress de recevoir un coup. Et on ne va pas forcément se permettre les mêmes choses que dans le sparring technique. Dans le sparring technique, tu peux te permettre de tenter des choses un peu risquées ou un peu farfelues, peu importe, pour te aussi développer ton propre style. Là, tu vas plus jouer la carte de la sûreté. Tu veux pas prendre de coups parce que malgré tout, un coup à 70-80%, c'est quand même un coup qui peut faire mal. Donc là, on se rapproche plus d'une vraie situation, mais on est quand même en dessous d'un sparring à plein pot. Et donc, au niveau de l'intégrité physique, c'est une bonne alternative pour gérer son stress, voir comment on réagit en situation, mais tout en se préservant. Et pour finir, la troisième forme, c'est le sparring au chaos, le plein pot. Donc celui-ci, malheureusement, c'est souvent celui qui est le plus pratiqué. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les boxeurs qui vont avoir des problèmes au niveau du cerveau en vieillissant, parce que souvent, ce n'est pas tout de suite, hein, mais ça après, on ne le voit pas, parce qu'il y a aussi il y a les grands champions et tout, il y en a certains qui sont connus pour ça, mais il y a tous ceux qui ne sont pas connus, mais qui passent par là, et eh bien ce n'est pas médiatisé et on ne le sait pas. Mais il faut savoir qu'en réalité, souvent, on dit, oh là là, il a fait le combat de trop, je ne sais quoi. Ce n'est pas forcément le combat, d'accord? Ça peut être le combat, bien sûr aussi, mais en réalité, le problème, c'est tous les sparrings de bourrin qu'ils ont fait en préparation pour leur combat. Que ce soit sur des camps de 3 mois avec 2 à 3 sparrings au KO par semaine, voire sparring au KO tous les jours. Là, la quantité de coups reçus, même si c'est avec un casque et tout, on a vu qu'avec un casque, en réalité, parfois, ça peut être pire encore pour le cerveau. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est voilà, c'est plus à l'entraînement en fait qui s'abîme le plus, qui reçoivent le plus de coups. Si tu fais ça en plus toute l'année, il y a des clubs, par exemple, si tu as la malchance d'être dans un club de bourrins où à chaque cours on te fait faire du sparring et que c'est tous des bourrins qui cherchent à te dégommer la tête et que tu n'as pas le choix, tu as beau leur dire non, vas-y, on y va tranquille, ou si tu demandes ça, il y a tout de suite on va se moquer de toi, te dire que tu es faible ou je ne sais quoi. Change de club, franchement, ça vaut pas la peine de s'abîmer le cerveau. Il y a plein de choses dans le corps qu'on peut s'abîmer, se casser et qui peuvent se réparer avec le temps. Le cerveau, une fois que les dégâts sont faits, en général, c'est irrémédiable malheureusement. Et surtout, on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment. Et par contre, le jour où ça arrive, là, on regrette amèrement. Donc vraiment, le sparring au KO, pour moi, ça devrait être réservé aux compétiteurs, amateurs ou professionnels qui ont bien conscience des risques encourus. Mais pour moi, pour les loisirs, ça n'a aucun sens de faire faire du sparring comme ça. Même s'il y en a qui vont aimer l'adrénaline et qui ont besoin de se prouver quelque chose, franchement, c'est pas du tout intéressant. Ou alors, il faut faire ça avec quelqu'un qui a une vraie maîtrise, qui va pouvoir avoir du discernement le moment où il a touché durement, de ne pas continuer et de ne pas faire des dégâts vraiment importants au niveau du cerveau. Parce que, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de retour en arrière. Et si ton cerveau fonctionne plus bien, ta vie, tu vas franchement pas l'apprécier. Allez, on se fait un petit récap. Premier conseil, inclure des exercices aléatoires régulièrement dans ton travail technique. Deuxième conseil, inclure des exercices intermédiaires entre le travail technique et le sparring, comme du sparring à thème ou d'autres choses dont je t'ai parlé, qui vont te permettre de prendre confiance et mieux réussir à placer les techniques apprises en situation. Et troisième conseil, privilégier quasiment tout le temps le sparring technique versus le sparring appuyé ou encore moins au KO. Et même si pour beaucoup c'est difficile d'admettre qu'ils ont peur des coups, en général tu sais quand c'est un de tes problèmes et j'ai fait une vidéo là-dessus qui a aidé énormément de personnes, qui a fait un vrai carton. Donc si tu as ce problème, que tu as vraiment un peu une appréhension, que tu n'es pas à l'aise quand on vient t'attaquer, regarde cette vidéo, ça va vraiment t'aider. J'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que tu me partages aussi, toi, ton expérience personnelle, ce que tu as pu observer dans les clubs où tu as été en termes de pratique au niveau des sparring, des différents exercices utilisés, histoire d'en savoir un peu plus et d'avoir une vraie vision de ce qui se fait dans les différents clubs de France et même des autres pays de francophonie. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.